Bien, nous allons dans l'Ancien Testament ce matin, au deuxième livre des Rois, chapitre 5. Et nous allons commencer une étude de Naaman, de l'épisode de Naaman. Et nous regarderons ce matin la providence de Dieu à partir de ce passage. Donc, deux rois. Chapitre 5, et nous commencerons la lecture au verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Dama, là-bas, de Damas, là-bas, l'Abana, le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent: Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit: lave-toi et tu seras pur? Naaman descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu et toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit: Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Élisée lui dit, va en paix. Et c'est la parole de Dieu. Donc nous avons ici un passage probablement bien familier pour la plupart d'entre nous, qui n'a pas eu une leçon à l'école du dimanche sur l'histoire de Naaman. Personnellement, je crois que j'ai prêché même sur ce passage il y a bien longtemps, ici ou ailleurs. Et cette fois-ci, en revanche, j'aimerais aller plus loin dans l'étude de cet épisode de l'Ancien Testament. Et donc, on va y consacrer 3 séances. Il y a plusieurs buts derrière cela. Le premier étant, ça donnera du repos à Philippe, permettra de surmonter la Covid, n'est-ce pas? Et puis, ça nous permettra d'aller plus loin dans ce passage. On va voir dans ces séances la providence de Dieu ce matin, et puis ensuite la religion de l'homme, et enfin, on regardera, Dieu voulant, la grâce de Dieu. Alors, avant d'entrer dans le passage, disons que quand on aborde un passage de ce genre, nous devons veiller à ne pas le prendre comme une simple petite histoire divertissante avec quelques leçons morales sur ce qu'on doit faire. Dieu a placé cet épisode dans sa parole pour nous enseigner et plus précisément pour nous enseigner au sujet de la promesse de son alliance qui s'accomplit en Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il nous faudra sans cesse rechercher le filigrane, l'image cachée qui donne la valeur à l'histoire. Alors il y a des tas de détails au sujet de cet épisode qu'il nous est tout simplement impossible de connaître ou de comprendre. C'était dans un autre contexte, et il y a très longtemps. Mais ultimement, nous ne sommes pas intéressés par Naaman ou par sa guérison. Je me rappelle une fois avoir prêché sur ce passage, et quand j'annonce le passage, c'était dans un lieu où on prise beaucoup les guérisons, les miracles. Alors dès que j'ai annoncé ce passage, tout le monde frémissait, n'est-ce pas ? Mais ça n'est pas notre intérêt premier. Nous sommes intéressés que Naaman a été guéri. Mais celui qui est le point focal de notre épisode ici, c'est celui que Naaman a rencontré. Celui qui est en lui-même la guérison, avec des majuscules. Parce que si tout ce que je retire de l'histoire de Naaman, c'est une familiarité avec les éléments de cette histoire, si j'ai été simplement diverti, alors j'ai bien perdu mon temps. Non, je veux voir la gloire de la grâce de Dieu resplendir sur la face de Jésus-Christ. Et l'ayant vu, je veux être rempli d'admiration au point d'être poussé à l'adoration du grand Dieu de grâce. C'est cela que je veux retirer de mon passage. Je ne veux pas me contenter de voir Naaman transformé. Je veux, moi aussi, être changé en l'image de Christ, allant de gloire en gloire jusqu'au jour où je serai assis à la table du banquet des noces de l'agneau dans sa présence, dans la présence du Père. Donc voilà ce que nous voulons rechercher. Et bien sûr, le prédicateur ne peut qu'effleurer la chose. C'est l'Esprit de Dieu qui peut vraiment toucher nos cœurs. Un premier point, histoire de brosser le contexte de l'histoire, le contexte de cet épisode. Nous sommes dans le royaume du Nord, qu'on appelle Israël, Éphraïm ou Samarie. C'est après le schisme qui a déchiré le peuple d'Israël, après la mort de Salomon, et en raison de son péché d'idolâtrie. Dans le nord, donc dans ce royaume du nord, nous voyons toute une cavalcade de mauvais rois qui n'appartiennent pas à la lignée de la promesse. En fait, il y a 5 dynasties qui se succèdent des fois avec un roi qui va durer un mois. Des rois impies qui vont jusqu'à la destruction du royaume du Nord, destruction qui sera complète. Mais il existe encore dans ce royaume du Nord de vrais croyants, et Dieu leur suscite des prophètes. Élisée ici. Nous sommes donc au temps d'Élisée, le successeur d'Élie. On connaît bien Élie, n'est-ce pas? C'est le géant. Mais en fait, Élisée remplit un ministère très important, et beaucoup plus long d'ailleurs que celui d'Élie. C'est un ministère important pour révéler des vérités au sujet de Christ. Peut-être qu'on pourra se lancer dans une étude de ce ministère un jour. Au nord du royaume du Nord s'étend la Syrie, un autre royaume qui combat Israël régulièrement. D'ailleurs, au début de notre passage, il est fait mention d'un raid syrien qui a dévasté une partie du nord d'Israël. Et sans arrêt, nous avons ces récits de combats entre la Syrie et Israël au nord. L'armée syrienne, à cette époque, est dirigée par un valeureux général, un homme qui a remporté des victoires, qui a assuré la sécurité de son peuple, un homme qui s'appelle Naaman, qui jouit de la faveur de son roi et de tous. C'était un proche du roi, un homme adulé ou tout au moins respecté, quelqu'un que personne n'ose critiquer, je pense. Mais Naaman est affecté par une sorte de lèpre qui lui pourrit la vie. C'est pourquoi une petite Israélite qui est au service de sa maisonnée lui indique qu'il y a en Israël un serviteur de l'Éternel qui est capable de le guérir. Et bien entendu, la petite fille s'appuie sur des miracles que Élisée a déjà accomplis et qui manifestent son autorité, autorité qui vient de Dieu, bien sûr. Ce n'est pas Élisée qui guérit. Naaman donc se rend en Samarie et finalement il reçoit le message d'Élisée. Élisée lui dit ce qu'il faut faire. Et après bien des péripéties, le général syrien est guéri de sa lèpre. Et en plus, et surtout, il est transformé par la grâce de Dieu. Il devient adorateur du seul vrai Dieu. Voilà donc les grands traits de notre histoire. Et ce matin, j'aimerais relever comment nous voyons la providence de Dieu et ce qu'est cette providence. Alors, parler de providence peut être un exercice stérile qui consiste à parler de ce qu'on ne comprend pas. Et la providence va bien au-delà de ce qu'on peut saisir. Le dictionnaire donne cette définition, et j'étais très intéressé de la relever. La providence est le sage gouvernement de Dieu sur sa création. Ce n'est pas un dictionnaire biblique que j'ai consulté. Le croyant peut ajouter que ce gouvernement sage de Dieu s'exerce pour un but ultime, dont Dieu est l'auteur, pour accomplir ce que Dieu veut. Et donc nous allons relever trois aspects de ce vaste sujet, des aspects qui ressortent de notre passage. Et bien entendu, ça va susciter, je suis persuadé, parce que ça l'a fait pour moi, ça le fait pour moi, des tas d'interrogations. Et on ne peut pas couvrir tout cela, il faudrait beaucoup plus de messages. Donc peut-être ça pourra alimenter nos mercredis soirs avec des tas de questions. Je vous fais confiance là-dessus. Premier point dans cette étude de la providence de Dieu. La providence de Dieu n'est pas toujours ce qu'on pense. La providence de Dieu n'est pas toujours ce qu'on pense. Les hommes du monde ne parlent plus de providence aujourd'hui. Comme ils ont évacué l'idée de Dieu, il leur faut se rabattre sur le hasard, la chance. On dira, par un heureux hasard, certaines choses se sont produites. Mais pour ce qui concerne ceux qui affirment être croyants, il faut cependant veiller. Les choses ne sont pas toujours noires et blancs. En effet, il est commun de parler de providence, providence de Dieu, en termes qui sont centrés sur l'homme. J'ai été béni de Dieu, par exemple. On l'entend. Et cela veut souvent dire que les choses se sont déroulées à mon avantage. Mon bien-être est assuré. Très souvent, le moi est le centre de référence dans notre façon de penser à la providence. Et la providence devient une sorte de hasard sanctifié. Dieu m'a bien servi. Et en note sous-jacente, la pensée inconsciente est « c'est un bon Dieu ». S'il ne m'avait pas si bien servi, mon attitude serait différente. Quand est-ce que vous avez entendu un croyant parler de la providence de Dieu dans le fait d'être atteint d'une maladie grave? C'est pourtant la providence de Dieu, n'est-ce pas? Ou alors Dieu n'est pas souverain. Si la mère de celui qui deviendra plus tard un horrible criminel avait fait une fausse couche, tous les gens autour auraient pensé que c'était une terrible tragédie. Mais dans le cours de l'histoire, pour les futures victimes, ça aurait été vraiment une bénédiction. Donc, il y a une manière de regarder la providence de Dieu qui n'est pas bonne, qui est centrée sur l'homme, sur le moi. Et tout cela pour dire que nous devons veiller à ne pas parler ou à penser à la providence en termes qui sont centrés sur l'homme. On est tellement enclin à faire cela. Dieu a créé l'homme et non pas l'inverse. La providence est donc étroitement liée à la souveraineté de Dieu. Comme il est absolument souverain, tout obéit à sa volonté et tout obéit à son dessein. Et ce n'est que dans ce cadre que l'apôtre Paul peut dire dans sa lettre aux Romains « toute chose concourt au bien ». Ce n'est que dans ce cadre-là. Dieu est souverain, donc. Et en conséquence, la providence se rapporte à sa volonté. Une volonté qui est souveraine, qui fait ce qu'il a décidé. Mais on peut aller plus loin. Parce que Dieu est le Dieu de grâce. Il n'est pas n'importe quel Dieu. Il ne fait rien au hasard. Souvent, on amène le hasard, on élève le hasard au niveau de divinité, n'est-ce pas ? Non, Dieu ne fait rien au hasard. Tout est lié à son dessein, à ce qu'il a décidé de faire. Et tout est lié à sa nature, à qui il est. Il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils disent « Mais si Dieu est souverain, il peut faire n'importe quoi, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. » Non, il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce que ça serait contre sa nature, qui il est. Donc tout est lié à ce dessein, à sa nature. C'est lui qui a conçu le grand dessein de rédemption. Et il l'a fait parce qu'il l'a voulu. Et tout contribue à l'accomplissement de ce grand dessein de rédemption, d'avoir un peuple racheté. C'est pour cela que Paul peut continuer en disant « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et nous savons bien sûr que ceux qui aiment Dieu l'aiment parce que Dieu les a aimés en premier. Mais même là, il est possible de concevoir le dessein de Dieu en termes centrés sur l'homme. Et ainsi, le grand but de toute chose, c'est que je sois sauvé. C'est qu'il y ait une Église. Ça, c'est une façon centrée sur l'homme de réfléchir. Or, le cœur du dessein de Dieu n'est pas le salut d'un peuple. Cela peut nous surprendre, n'est-ce pas, de dire cela. Mais le cœur du dessein de Dieu, c'est la gloire du Fils, qui est la gloire du Père. Et Dieu déploie la gloire du Fils dans la rédemption d'un peuple rebelle. Il aurait pu la manifester de n'importe quelle manière, il est souverain. Mais il a décidé de le faire de cette manière, et c'est ce qu'il révèle dans sa parole. Et c'est ainsi, et ainsi seulement, qu'on peut expliquer la providence de Dieu quand elle est mauvaise, entre guillemets, quand elle est brutale, quand elle est pénible. Pourquoi est-ce que Dieu fait cela? On n'a pas d'autre réponse. Et si on est centré sur l'homme, les réponses qu'on peut avoir sont des réponses qui sont proches de l'incrédulité et de la rébellion. Je souffre, mais d'une manière mystérieuse, cela sert à la gloire du Fils. C'est quelque chose qu'il faut poser comme axiome, comme chose donnée. Ultimement, la providence de Dieu vise la venue du Fils. Tout l'Ancien Testament mène à cette venue du Fils pour accomplir le salut qui est sa gloire. N'est-ce pas? Quand Jésus commence à prier son Père, chapitre 17 de Jean, « Père, glorifie ton Fils », il va le mettre en croix. Donc, pour accomplir le salut qui est sa gloire, et puis, la providence de Dieu vise le retour de ce Fils, quand tous ses ennemis, jusqu'au dernier qui est la mort, seront placés sous ses pieds. Voilà ce que Dieu vise. Et tout est asservi, assujetti à ce dessein. Ici, dans tout ce qui arrive à Naaman, nous voyons ce qui manifeste que Dieu est souverain et qu'il est le Dieu de l'élection, celui qui choisit qui il veut. C'est pourquoi, quand Jésus veut montrer que Dieu règne et qu'il fait ce qu'il veut, il dit « Il y avait beaucoup de lépreux en Israël à cette époque. » En Israël, c'est-à-dire ceux qui avaient un avantage, n'est-ce pas, selon les Juifs auxquels Jésus parlait, les favoris. Mais Naaman le Syrien seul fut guéri. Vous voyez comment la guérison de Naaman manifeste la gloire de Dieu. Un Dieu qui n'est pas humain, si je puis dire. C'est la seule manière d'expliquer la providence de Dieu, c'est-à-dire ce qui se passe d'une manière vraie, surtout quand cette providence est pénible et terrible, parce qu'elle peut l'être, n'est-ce pas? Les raids de l'armée syrienne en Israël, étaient-ils une bonne chose? Et ce n'était pas du pique-nique, ce n'était pas le Club Med, n'est-ce pas? Ils allaient pour détruire. Est-ce que c'était une bonne chose? La mère de la petite Israélite qui avait été emmenée esclave, est-ce que chaque matin, elle se levait et remerciait le Seigneur pour sa bonne providence? Non, on peut imaginer la destruction, la douleur, les carnages. Peut-être même que la mère n'était plus là. La pilule était amère, mais Dieu agissait dans sa grande sagesse. Était-ce une bonne chose pour Naaman d'attraper la lèpre? Je ne le pense pas. Imaginez la douleur, la honte, le désespoir, les difficultés. Et quand la maladie ou les revers vous frappent, oui, même vous, est-il aisé de voir la main de Dieu? Absolument pas. Toutefois, ces choses font-elles partie de la providence de Dieu? Absolument, absolument. Mystérieuse, mais servante du Seigneur. Voilà la providence. Et nous le voyons ici, dans tout notre passage. Et quand la croix fut chargée sur le dos de Christ, quand son grand cri de dérilection déchire l'espace, n'est-ce pas? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Quand Dieu abandonne Dieu, où était la providence de Dieu? Alors, bien sûr, il y a une façon religieuse, une façon théologique de répondre, n'est-ce pas? Mais c'était terrible. Bien sûr, là, dans la mort de Christ, nous voyons le pourquoi du comment. On comprend bien, on est suffisamment enseigné théologiquement pour cela. Dieu poursuivait son dessein de la manière la plus éminente. C'est ainsi qu'éclatait la gloire ineffable du Rédempteur dans l'œuvre unique qu'il accomplissait, qu'il était le seul. Comme il nous a été lu tout à l'heure, c'est le seul nom qui soit donné, le seul capable. Mais la providence, mes amis, n'est pas toujours ce qu'on pense. n'est pas toujours ce qu'on pense. Si la petite Israélite était restée à la maison, si Naaman avait été bien portant, dites-moi si nous pourrions lire les paroles de Naaman au verset 15. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. On ne pourrait pas. On ne pourrait pas. Si Christ n'avait pas été rejeté, insulté, s'il n'avait pas été mis à mort, si la terrible tragédie de Golgotha lui avait été épargnée, s'il avait eu ses 12 légions d'anges qui l'aient protégé, n'est-ce pas? Dites-moi, est-ce qu'on pourrait lire dans l'Apocalypse au sujet de cette multitude que nul homme ne peut compter et qui chante les louanges de l'agneau immolé? On ne pourrait pas. On ne pourrait pas. La petite Israélite, Naaman, le roi de Syrie, le roi d'Israël, Élisée, Géhazi, son serviteur, sont tous morts. Ils sont partis. Mais nous sommes ici. Allons-nous apprendre que tout vient de la main providentielle de Dieu selon son dessein de grâce en Jésus-Christ, même quand ça ne semble pas être cela? Voilà la question qui nous est posée. Donc la providence n'est pas toujours ce qu'on pense qu'elle est. Deuxième point. La providence de Dieu est incompréhensible. La providence de Dieu est incompréhensible. Et par cela, je veux dire qu'en soi, les choses qui arrivent, la providence de Dieu, ne viennent pas avec une étiquette « providence de Dieu », ni avec un manuel d'installation ou d'utilisation. Je dois avouer que j'ai un peu de mal avec les gens qui vous disent savoir ce que Dieu fait dans telle ou telle circonstance. Il y a des gens comme ça. Tout de suite, ils savent ce qui se passe. Je les envie d'une certaine manière, mais ils me mettent mal à l'aise. Ils semblent avoir une ligne directe avec le ciel, être vraiment les initiés. Et c'est un danger courant. Vous l'avez fait, je l'ai fait. Par exemple, ici, dans notre histoire, nous connaissons la fin de l'histoire de Naaman avant d'en commencer la lecture. Nous comprenons pourquoi les Syriens ont kidnappé la petite Israélite. Dieu la veut dans la maison de Naaman pour dire certaines choses. Est-ce que le jour où les soldats syriens sont venus arracher cette petite fille de sa maison, est-ce qu'elle et ses parents se sont dit « Ah oui, Dieu est à l'œuvre parce qu'il veut guérir et convertir Naaman ?» Ça vous fait sourire, n'est-ce pas? Bien sûr que non! Ce jour-là était terrible et sombre, incompréhensible. Est-ce que même les parents n'ont pas été détruits dans la chose? La providence de Dieu était incompréhensible pour cette famille, pour cette petite fille. Mais, si on en croit son témoignage à elle, elle savait qui est l'Éternel. Et elle croyait qu'il est ce qu'il révèle être. La providence de Dieu lui était totalement incompréhensible. Elle n'avait aucun moyen de comprendre. Mais elle connaissait. Et lorsque Naaman, en sortant de chez le docteur avec son terrible diagnostic, est-ce qu'il s'est dit « Ah oui !» Voilà l'Éternel qui agit pour que je puisse le connaître, pour que je puisse être touché dans mon cœur. Mais bien sûr que non. Naaman n'avait aucune idée de l'Éternel. La providence de Dieu était incompréhensible, mais il en vint à connaître le Dieu de la providence. N'est-ce pas ? Je sais, je reconnais qu'il n'y a d'autre Dieu. Et écoutez ces deux hommes qui quittent Jérusalem pour rentrer chez eux. Quel est leur langage, quelle est leur conversation? Nous pensions que ce serait lui. Mais voilà déjà 3 jours. C'est sans espoir, n'est-ce pas? Au jour de la plus grande manifestation de la gloire de Christ, la providence de Dieu leur était incompréhensible, bien qu'elle ait été annoncée aux disciples. Incompréhensible. Mais tout change, n'est-ce pas, quand ils le reconnaissent
lui.
Et c'est dans la parole de Dieu qu'est l'explication. Nous connaissons l'histoire de Naaman et nous comprenons la providence de Dieu parce que la parole nous le montre. Jésus commence avec ces deux hommes, là, sur la route d'Emmaüs. Jésus commence avec Moïse et puis il traverse tous les prophètes. Et pendant qu'il parle, nous avons le témoignage par la suite, le cœur de ces deux hommes brûle au-dedans d'eux. Pourquoi ? Parce qu'ils saisissent les mécanismes divins, parce que ce sont devenus des théologiens ? Non, parce qu'ils leur expliquent ce qui le concerne, lui, dans l'Ancien Testament. Et il en est de même pour moi. Très souvent, je ne comprends pas la providence de Dieu. Et des fois, je pense la comprendre, et puis les choses ne vont pas à ma manière. Terrible. Mais la question est, la vraie question est, est-ce que je le connais, lui? Car là est le cœur de la question. En effet, il y a une manière romantique de voir la providence. Toutes choses vont finir comme il faut, n'est-ce pas? Combien on aime citer ce verset de Romains 8, n'est-ce pas? Il y a donc cette façon romantique de voir la providence. Ici, par exemple, le grand général syrien est guéri, et puis il est acquis à la cause du Dieu d'Israël. Il est devenu un croyant dévoué au Dieu d'Israël. Et donc tout va bien maintenant. Ils vécurent heureux et longtemps. Tout va bien. Mais on arrive au chapitre 6, verset 8, et nous lisons, le roi de Syrie était en guerre avec Israël, rebelote. Mais même là, Dieu délivre son peuple, et donc tout va bien. Mais voilà qu'on arrive au verset 24 du chapitre 6. Le roi de Syrie monta et assiégea Samarie. Et on retourne là. Comment est-ce qu'on peut expliquer la providence de cette manière-là? Nous voyons ainsi que, ultimement, toute providence est incompréhensible. Mais nous ne sommes pas appelés à comprendre toute chose. Et c'est une leçon qui est très importante à apprendre. Nous ne sommes pas appelés à comprendre toute chose. Le Seigneur appelle son peuple à se reposer en lui. Je connais le Dieu de la providence. Peu importe si je connais la providence. Toute providence est finalement bonne parce qu'il est le Dieu qu'il est, le Dieu de grâce. Est-ce que je le connais vraiment? Donc la providence n'est pas toujours ce qu'on pense qu'elle doit être. Elle surprend. Elle n'entre pas dans nos schémas. La providence est incompréhensible. Et on va se taper la tête contre les murs à chercher à comprendre la providence. Il y a toujours des éléments qui nous échappent. Ici, pourquoi est-ce que Dieu a agi de cette manière? Il pourrait agir de tant d'autres manières. Il n'y a pas besoin d'avoir la petite fille chez Naaman pour cela. Il a utilisé des visions dans le passé, n'est-ce pas? Et toutes sortes de choses comme ça. Mais il a décidé de le faire ainsi. C'est lui qui est Dieu. Troisième point, et pour finir, la providence et ses effets. La providence et ses effets. Dans le monde, il y a finalement deux sortes d'hommes, deux sortes d'êtres humains. Les enfants de Dieu et les incrédules. Ou pour le dire d'une autre manière, ceux que Dieu a touchés dans sa grâce et ceux qui sont encore, qui sont laissés dans leur état naturel. Deux sortes d'hommes, il n'y a pas trois. Et la providence de Dieu exerce deux effets sur ces gens, selon la catégorie dans laquelle ils se trouvent. Et on peut dire que la providence de Dieu peut agir de deux manières, même sur les croyants, parce qu'ils sont suffisamment dans la chair encore pour être touchés par cela. Le fait d'entendre l'annonce du message de Dieu fait partie de la providence de Dieu. Actuellement, nous sommes en train d'examiner une partie de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a appelé à l'ouvrir, à l'expliquer, à l'appliquer. Et tout cela fait partie de la providence de Dieu. Pourquoi est-ce que je suis ici? Le fait d'entendre ma voix provient de ce que Dieu fait. En fait, il était probable que s'il y a 2 semaines, on nous avait dit, on s'attendrait à ce que Philippe parle. Mais voilà la providence de Dieu. Bon, à vous de dire si elle est bonne ou mauvaise. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de la providence de Dieu. Le fait d'entendre cette voix, c'est ce que Dieu fait. Et j'entends le message en étant ce que je suis, soit enfant de Dieu, soit incrédule, ou en étant dans une de ces dynamiques. Quel est l'effet de la providence de Dieu sur l'enfant de Dieu? Voilà la question. Rappelons-nous que la providence peut être pénible, douloureuse, brutale, et qu'elle est toujours incompréhensible. Quel est son effet sur le croyant? Nous le voyons chez la petite Israélite. Est-ce qu'elle abrite en son cœur une grande colère contre Dieu, ce Dieu qui a permis que tout cela lui arrive et que maintenant elle soit privée de ses parents, qu'elle soit esclave, probablement debout, bien avant ses maîtres et pas couchée avant longtemps? Est-ce qu'elle abrite de la colère contre Dieu? Comme c'est courant, n'est-ce pas? Il est vrai qu'elle est captive, esclave, mais libre ou esclave, elle sait qui est l'Éternel. C'est pourquoi elle parle. C'est pourquoi elle sert Dieu. C'est pourquoi elle témoigne de Dieu, c'est pourquoi elle adore Dieu. La terrible providence de Dieu a changé ses circonstances, mais elle n'a pas changé son cœur. Elle adore Dieu en témoignant de qui il est, un Dieu qui est capable de guérir même ceux du dehors d'Israël. Alors attention, ne regardons pas ça comme simplement un roman. Cette petite fille est dans une situation terrible, même si la maisonnée de Naaman est probablement la meilleure qui est en Syrie. Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est terrible. Elle doit beaucoup pleurer. Son cœur doit souffrir, effectivement. Mais elle sait qui est l'Éternel. Et à cause de cela, elle sert l'Éternel, elle rend témoignage, elle adore. Quel est l'effet de la providence de Dieu sur l'incrédule? Nous le voyons chez Naaman. Nous le voyons chez Naaman. La parole de Dieu vient à lui. Le prophète lui dit, « Fais cela et tu seras pur. Va te plonger et tu seras pur. » Quel est le résultat? Naaman est irrité et il repart, il laisse de côté, il tourne le dos à la parole de Dieu, irrité. Qui est ce Dieu qui ose traiter ce grand général de cette manière? Mes amis, il y a beaucoup d'incrédulité dans l'Église. Beaucoup de réactions à la Naaman. Même quand on n'ose pas lever le poing contre Dieu, on vacille en se demandant s'il est vraiment le Dieu de grâce qu'on pense qu'il était. Où est le changement? Où est le changement? Comment est-ce que Naaman, grandement irrité, devient celui qui va se plonger dans le Jourdain? Pour lui, c'est quand le message de Dieu que lui a donné le prophète est expliqué. C'est intéressant que la parole d'Élisée n'a produit que l'irritation. Mais quand elle est expliquée, là vient le changement. Quand elle est expliquée, et c'est expliqué, c'est très intéressant parce que c'est par ses serviteurs, « Mon Seigneur, si il t'avait demandé quelque chose de terrible, de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ?» Vous voyez comment c'est expliqué, appliqué, là? Et par son esprit, Dieu arrête ce général irrité et lépreux. et il lui ouvre les oreilles. Il lui donne la foi d'obéir à ce que Dieu a dit. Et nous verrons plus loin comme quoi le Naaman fait exactement ce qu'il lui demandait. Et voici que le grand homme en colère devient un adorateur du seul vrai Dieu, en public, devant tous les autres Syriens. C'est là qu'est le changement, vous voyez. Comment est-ce que moi, je réagis à ce que Dieu fait dans ma vie? Oh, il y a des réactions épidermiques, oui, on est des êtres humains, n'est-ce pas? Mais je parle profondément, profondément. Nous avons le témoignage de Job. Job a été complètement déstabilisé, n'est-ce pas, par toute sa douleur, son incompréhension et tout cela. Mais quand même, il y a ces convictions. Mais je sais que mon Rédempteur vit. Malgré tout, comment est-ce que je réagis à ce que Dieu fait dans ma vie? Telle est la question que la providence de Dieu demande, pose à chacun de nous. Et que le Seigneur nous fasse la grâce de voir le Dieu souverain à l'œuvre en toutes choses. Amen.